you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. Prise de son assurée ce soir par Julien Calvas, réalisation Daniel Fino. Autour de moi, Emmanuel Giuliani, Lucille Como, Emmanuel Dupuis pour parler ensemble de l'exposition Patrice Chéreau, maître en scène l'opéra. Mais aussi, nous parlerons de La Maison des Morts, l'opéra de Léos Janáček dirigé en ce moment par Esa-Pekka Selonen à l'Opéra de Paris, dans une reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau également, qu'on peut voir en DVD à sa création, dirigée par Pierre Boulez, création de la mise en scène de Patrice Chéreau, on va en parler. Et puis un CD également à notre sommaire qui regroupe Haydn, Mozart et Guénin par Julien Chauvin et le concert de la Loge, un disque sorti chez Aparté. Boris Pino est également présent avec nous pour regarder, surveiller les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires sur les sujets de ce soir. Et puis, bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Haroun Farouki Empathie. C'est une exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 18 mars à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Et nous ouvrons cette dispute avec l'exposition proposée par l'Opéra de Paris dans sa bibliothèque musée du Palais Garnier avec la BNF et l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. L'exposition s'intitule, oh, je vais faire dans le bon sens, Patrice Chéreau, maître en scène l'opéra, titre assez explicite, surtout si on le dit bien, au moment où est reprise sa mise en scène de l'opéra de Janáček de la Maison des Morts. Commissaire de cette exposition, Sarah Barbedette et Pénélope Drian, avec des documents de nature assez diverse, venant pour l'essentiel de l'IMEC, qui conserve les très nombreuses archives du metteur en scène, qui gardait vraiment tout, pour revenir sur les 11 productions lyriques signées Chéreau jusqu'à sa dernière Electra de Richard Strauss au Festival d'Aix-en-Provence. Au mois de mars 2013, quelques mois avant Electra et 6 mois avant sa disparition, Patrice Chéreau me parlait de cet opéra sur notre antenne lors de sa scène imaginaire enregistrée à l'Odéon Théâtre de l'Europe.
La part d'Hofmannsthal dans le livret d'Electra, elle est énorme. D'abord parce que ce n'est pas un livret qu'il a écrit, c'est une pièce qui a été jouée en 1907, qui a eu un grand succès à Berlin ou à Vienne, je ne sais plus, que Strauss a vu et qui lui a demandé d'adapter pour l'opéra. Ce n'était pas un livret qui a été écrit pour Strauss. Donc le travail qu'il a fait, il a été antérieur à la musique. Et c'était un travail d'adaptation à partir d'une version nouvelle, plus barbare, j'imagine, de Sophocle. Je suis très critique sur le livret. Dieu merci, de temps en temps, il y a la musique qui nous sauve. Mais là, par exemple, je suis en butte à des problèmes ou à des perplexités que je vais essayer de rendre les plus fertiles possibles entre ce livret, que je ne trouve pas plus mauvais que la pièce de Sophocle, que je n'aime pas beaucoup, et l'idée est simplement que le personnage d'Electre a pris un poids avec les années de plus en plus grand, c'est-à-dire que dans l'Orestie, c'est Oreste qui vient tuer sa mère, et il reconnaît Electre au cimetière sur la tombe d'Agamemnon où elle vient faire des libations, et elle est effrayée de ce qu'il veut faire. Dans Sophocle, elle commence à devenir une héroïne, et ils se reconnaissent, parce que la scène centrale de toutes les œuvres, c'est la reconnaissance du frère et de la sœur qui ont été séparés. Et finalement, c'est elle qui commence à devenir une héroïne, alors que sa sœur, Chrysothémis, devient celle qui semble collaborer avec les assassins de son père. En général, tous les metteurs en scène mettent en scène Electra comme si elle allait tuer, assassiner Clytemnestre. Or, elle ne le fait pas. Donc on en fait une héroïne. Donc c'est autour de ces interrogations-là que la mise en scène devrait naître. Il y a un art du dialogue dont Strauss mettant en scène, mettant en musique le dialogue d'Hofmannsthal qui est remarquable, par contre.
Mais c'est sur le plateau que les idées seront validées ou pas?
Oui, il y a des idées de mise en scène qui s'écroulent en 3 minutes, auxquelles on a pensé depuis 1 an. En plus, il arrive souvent dans l'opéra que les chanteurs et les chanteuses, en l'occurrence les chanteuses dans Elektra, aient déjà joué le rôle. Et il faut être très très armé pour arriver et pour qu'elles écoutent, parce qu'il arrive quelquefois qu'elles en sachent beaucoup plus que moi.
Voilà pour cet extrait de cet entretien avec Patrice Chéreau, qui était encore en train de travailler à cette mise en scène d'Elektra qui allait triompher, quoi, 3-4 mois plus tard, dans le Grand Théâtre de Provence. Cas d'espèce, cas d'école, mais j'avais envie qu'on puisse entendre la voix du metteur en scène dont nous allons beaucoup parler ce soir. Emmanuel Dupuis, vous l'entendez parler d'Elektra, Patrice Chéreau.
Oui, c'est assez révélateur de la relation qu'il avait à l'opéra, qui était une relation d'amour-répulsion, puisque là, on l'entend qui commence par nous dire que le livret d'Hofmannsthal est nul et que la pièce de Sophocle n'est pas à son goût. Et puis finalement, il commence à vous expliquer le sens du livret et on voit que tout ça le passionne en réalité.
Ben oui.
Quoi, donc, et c'est ça qui est très intéressant dans le parcours de Chéreau. Alors, pour parler de cette exposition, bon, d'abord, il faut préciser qu'il est tout à fait normal que l'Opéra de Paris rende hommage à Chéreau à travers cette exposition, parce que Chéreau est quand même un des metteurs en scène qui a le plus changé notre regard sur l'opéra depuis les années 70. Il n'est pas le seul. D'autres, comme Georges Lavelli, par exemple, a beaucoup fait, lui aussi, pour changer notre regard sur l'opéra. Mais autant la relation de Lavelli à l'opéra, c'est un moment peut-être un petit peu épuisé, autant celle de Chéreau est allée toujours crescendo et c'est toujours aiguisé pour aller toujours vers quelque chose de plus en plus épuré et pour signer à la fin des chefs-d'œuvre absolus. Chefs-d'œuvre absolus, bon, la Maison des Morts dont on va parler tout à l'heure, mais aussi Elektra dont on vient de parler. Alors, dans cette exposition, il y a évidemment des choses à voir. Il y a évidemment les maquettes des décors de Richard Peduzzi, qu'on ne peut pas séparer du travail de Patrice Chéreau. Et ces maquettes sont des chefs-d'œuvre en soi, notamment la maquette de Lucio Silla, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement.
Plastique.
Plastique. Ouais. Et les dessins de Richard Peduzzi, de la même manière, c'est fabuleux. Peut-être qu'on s'apercevra dans quelques années que Richard Peduzzi est un des plus grands peintres de notre époque. Mais il y a aussi des œuvres d'autres peintres, parce qu'il faut préciser que Patrice Chéreau venait d'une famille de peintres. Et qu'il a été extrêmement influencé dans ses années de formation par la peinture. Donc on voit des dessins de Géricault, de Gustave Doré,
Goya,
effectivement, exactement. Ouais. Voilà, on voit aussi des photos de Raymond de Pardon qui ont été réalisées dans un asile psychiatrique dont Chéreau s'est inspiré pour sa mise en scène de Wolsack. Il y a évidemment une reproduction de l'île des morts de Böcklin qui, dans le fameux ring du centenaire à Bayreuth, l'île des morts de Böcklin servait de rocher pour Brunhilde. Donc on voit tout ça, il y a évidemment bien sûr des photos de mise en scène, et puis surtout, il y a aussi beaucoup de choses à lire dans cette exposition, et ça, moi je trouvais ça extrêmement intéressant. Il y a des extraits de correspondance, des notes de travail qui permettent de vraiment comprendre le processus de création et de voir à quel point Chéreau s'interrogeait et interrogeait en permanence le texte. Et j'ai relevé un mot, moi, qui, dans ces notes de travail, qui revient très souvent, c'est le mot « violence ». Et c'est vrai que ça, finalement, c'est souvent il écrit tel personnage doit apparaître plus violent, il doit avoir une attitude plus violente, etc. Souvent. Et c'est vrai que c'est un des traits de son théâtre, ce théâtre qui est tout en tension, qui exacerbe les passions. Et puis, bon, il y a aussi une chose moi qui m'a beaucoup plu dans les écrits de Chéreau et que je voudrais citer à un moment, qui éclaire le rapport de Chéreau. Non seulement à l'opéra, mais aussi, surtout à la musique. À un moment, Chéreau écrit ou dit « La musique me donne tout de suite plusieurs possibilités de mettre en scène une action, de faire voir une action, de l'incarner et de la transformer en une occupation précise de l'espace. J'ai une imagination qui se déclenche avec la musique. » Et ça, je pense que c'est très révélateur du travail de Chéreau et de sa relation avec l'opéra, c'est que Chéreau, à l'opéra, mettait en scène le texte, bien entendu, mais il mettait aussi en scène la musique, et c'est peut-être le secret de son génie théâtral.
Bien. Emmanuel Giuliani.
Je ne sais pas quoi dire après.
Voilà, on ne pouvait pas l'interrompre.
Non, mais compliqué, il ne fallait pas l'interrompre.
C'est un sujet passionnant.
Mais absolument pas.
Il en reste à dire.
Mais c'est vrai, pour reprendre ce que vous disiez, Emmanuel, c'est tout à fait vrai. On se rend compte à quel point cet homme de théâtre, et Dieu sait si c'était un homme de théâtre, et qui n'était pas musicien, et qui le disait, en fait, est complètement mu et imprégné par la musique. Et il le dit aussi à d'autres moments. Ce n'est pas tant le livret qui me donne, l'argument théâtral qui me donne des idées de décors, d'images. Il parle, je ne sais plus de quel opéra il parle, il dit là viendrait pour Mozart des images du 18e siècle, etc. C'est la musique qui va m'inspirer. Et ça, on le sent vraiment, tout ce qui est écrit et interview, hélas, bien courte. C'est un petit bémol que je mettrais, enfin, j'ai quelques petits bémols sur l'exposition, mais dès qu'on lit ces mots ou qu'on entend sa parole, on se rend compte à quel point, à la fois dans ses affirmations, parfois assez péremptoires, mais surtout dans toutes ces interrogations que vous avez soulignées, il est intelligent et comment une idée en crée une autre, et comment, parce qu'il a frayé avec des gens aussi de très haut vol, comme Pierre Boulez, bien sûr, comme Daniel Barenboim, mais il frayait avec ces gens parce qu'il intéressait ces gens. C'est Boulez qui le conseille à Wolfgang Wagner pour le ring de Bayreuth, du centenaire de Bayreuth, après que d'autres ont refusé. Mais néanmoins, ce jeune homme qui n'a fait que deux opéras, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Spolette et les Contes d'Hoffmann à Paris. Donc voilà, on se rend compte de cette intelligence extrêmement aiguisée, à la fois douloureuse et fiévreuse, mais heureuse aussi par moments, heureuse par le théâtre. On entre aussi dans sa fabrique quand il dit, par exemple, qu'il ne met pas les personnages frontalement. Mais ça serait bien que d'autres s'en inspirassent, parce que Dieu sait qu'on voit du frontal un peu trop souvent, mais toujours des triangles,
des diagonales,
etc. Parce que ça correspond aussi aux relations musicales et pas seulement théâtrales entre les personnes. Non, c'est très réussi. Tout cela est très réussi. C'est une expo assez minimaliste et qui a les défauts de ses qualités.
On reviendra dans un instant sur les défauts que vous avez pointés.
Mais l'élégance, en plus de la présentation très sobre, participe au fait qu'on est en plein dans son esthétique, que rien ne gêne à entrer dans cette esthétique que Chéreau Peduzzi, en effet.
Lucille Comeau.
Oui, et puis même le lieu, en fait, à l'intérieur, dans cet endroit-là de l'Opéra de Paris, je trouve qu'on vient totalement à une exposition sur Chéreau. Alors moi, qui n'ai pas vu, en fait, de mise en scène d'Opéra de Chéreau en dehors de la Maison des Morts, que j'ai du coup découverte cette année, pour le coup, j'ai quand même été assez frustrée par, vous parliez des interviews qui sont courtes, les extraits d'opéra sont aussi très courts. Or, c'est très difficile de trouver, même si on va sur Internet, des images, oui, mais des vidéos ou des extraits vidéo, par exemple, de Don Giovanni ou du Così fan tutte. Et moi, ça m'a un petit peu frustrée de ce point de vue. Il y a quand même très peu des extraits très courts de captation. Alors, beaucoup de documents, en effet, qui sont passionnants. J'ai un peu plus de réserve sur les écrits. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Pour le coup, là, il y a un côté peut-être un peu fétichiste.
Chéreau était fétichiste de lui-même. On voyait ça dans l'exposition d'Avignon et gardait ses cahiers de lycéens où il disait qu'il serait le plus grand metteur en scène. Et il a tout gardé toute sa vie, ce qui est assez fabuleux.
Mais l'exposition n'est pas obligée de rendre.
Il aurait fallu faire peut-être un tri autrement, je suis d'accord avec vous.
Ou les mettre différemment. C'est drôle d'ailleurs quand il écrit sur les livrets, puis c'est ce qu'on entendait aussi dans l'interview que vous aviez menée. Il donne beaucoup de détails un peu psychologisants sur les personnages, la manière dont il va les amener, y compris sur du Wagner où on a l'impression que c'est pas du tout le lieu. Et c'est drôle d'imaginer qu'il a travaillé avec ce type de matière-là qui nous paraît un peu décalé par rapport à ce que ça donne après sur scène. Moi, j'aime bien aussi une citation que j'ai relevée qui illustre bien ce caractère ambivalent du goût de Chéreau pour l'opéra et surtout son côté un peu naïf, c'est-à-dire qu'il arrive avec une culture relative, parce qu'il en joue beaucoup, mais avec une non-culture du solfège au moins ou de la partition. Et il se pose sans cesse la question, qui est une question naïve, mais qui fait qu'il arrive à faire ce qu'il fait, mais comment on fait chanter des gens sur scène et que ça paraisse naturel. Et je cite par exemple, il dit « Le fond du problème pour la Traviata sera toujours de trouver la justification du chant. On ne peut pas faire semblant, faire comme s'il parlait. Il faut que l'excès et la démesure arrivent et qu'il ne puisse que chanter. » Et ça, je trouve, on voit bien que c'est cette interrogation-là qui est année après année, malgré le fait qu'il s'habitue et qu'il joue avec des chanteurs incroyables et des chefs d'orchestre aguerris. Il se pose toujours cette question extrêmement primaire de la mise en scène de l'opéra, qui est comment on fait que des gens chantent au lieu de parler sur une scène.
Mais c'est vrai,
c'est assez beau.
Mais c'est une chose, on va en reparler pour De la Maison des Morts, mais pour Electra, qui était sa dernière mise en scène d'opéra, on avait presque cette sensation d'être devant une représentation théâtrale, alors que la musique était évidemment ô combien présente, mais il y avait une telle tension dramatique, et c'est effectivement intéressant de le réentendre parler, parce que il y a chez lui, ce que vous disiez, Lucile Comeau, il y avait chez lui, en tout cas, à la fois, comme dirait notre président de la République, c'était en même temps hyper intuitif et en même temps hyper intellectuel. Et ce bouillonnement, et dans un dialogue aussi très fécond avec Richard Peduzzi, parce que la question de l'espace, évidemment, de jeu et de dramaturgie est évidemment essentielle dans toute mise en scène, mais alors avec Géraud et Peduzzi, ô combien. Et c'est très étonnant de les voir parler entre eux, des idées, sortir une image. C'est passé par les tout petits mots, c'était très très rapide, et en même temps... il y avait une sorte d'accord presque immédiat entre les deux. Emmanuel Dupuis ?
Oui, ça, on voit à un moment une conversation entre Géraud et Peduzzi pendant l'exposition, mais c'est vrai que je rejoins ce que dit Lucile sur l'insuffisance des vidéos. C'est vrai je crois qu'il n'y a aucune image des Contes d'Hoffmann, par exemple, alors que c'est une production qui a été intégralement filmée. La bande existe quelque part dans un...
Le 74, c'est dans, ça, l'Opéra de Paris.
Ça doit être exactement, oui, je crois, c'est ça.
Je crois que c'est ça.
Et
oui.
c'est
voilà, ça existe.
Ça dort dans les tiroirs de Lina.
Ah, je savais même pas que ça existait.
Comme Loulou, qui est de la même
création
manière.
Création mondiale de la version.
De la version en trois actes en 79, actes. Aussi à l'Opéra de Paris, qui a été filmée intégralement et à l'époque diffusée en direct sur les chaînes de service public. tout ça est une époque révolue. Et voilà, et Loulou, il y a simplement un très court extrait de quelques minutes, et on voudrait en voir bien davantage. On ne voit pratiquement rien de Lucio Silla, qui a été un des plus beaux spectacles de Géraud. Et je pense que ça a été filmé par la télévision belge lors de la reprise à Bruxelles. Et voilà, on aimerait voir reparaître ces films-là, parce que les dernières mises en scène sont beaucoup mieux documentées.
Il y a le coffret du Ring, en DVD.
Ça c'est absolument
indispensable.
c'est une bible de tout amateur d'opéra. Et voilà, donc c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas cette vidéo. Moi, ce que je regrettais aussi, c'est que la relation avec les chanteurs n'est pratiquement pas évoquée, alors que c'était extrêmement important. C'était pour Géraud, les chanteurs, c'était sa glaise qu'il est façonné à son théâtre. Et il y a eu des rencontres absolument déterminantes. Il a révélé certains chanteurs à eux-mêmes. Ça a été Gwyneth Jones, qui la semaine dernière était dans la salle à Bastille pour voir la Maison des Morts, qui n'a pas changé, qui était là, qui était venue rendre hommage à son cher Patrice. Et Gwyneth Jones, qui était la grande héroïne du Ring. Et puis après, il y a eu la relation avec Val Trottmeyer, la relation avec Evelyn Erlitsius aussi, qui a été déterminante pour Elektra. Avant Elektra, on savait qu'Evelyn Erlitsius était une très bonne chanteuse. Et puis là, on s'est dit, mais non, c'est un monstre sacré. Et, parce qu'il l'avait totalement révélé à elle-même. Et ça, cet aspect-là, malheureusement, n'est pas évoqué.
Quelques réserves, Emmanuel Giuliani ?
Oui, alors les mêmes. Sur les extraits, je serais même plus sévère. Je trouve que, mais ça, c'est toujours le cas dans les expositions dans la bibliothèque musée de l'Opéra de Paris, c'est qu'à la fin, il y a des petits gradins, on se casse un peu la figure d'ailleurs, où on peut voir des extraits sur grand écran. Et donc là, ils sont en effet très courts et en plus coupés n'importe comment. Par exemple, on a la fin du premier acte de Tristan, et alors qu'il suffirait de rester encore une minute de plus et on aurait l'arrivée du cortège du roi Marc, l'accord final, et quand même ce moment incroyable, on coupe avant. La fin de Loulou, il manque, qui était un des moments du spectacle, mais les plus incroyables, le moment où Jack l'Éventreur monte ce grand escalier et part, voilà, avec, qui était vraiment... Pourquoi arrêter avant ? On a vraiment l'impression que là, ça a été fait à la truelle et au massicot, alors que ça aurait été si facile. Mais c'est un mystère pour moi. Là, je ne comprends pas vraiment. De même, dans le Ring, Les extraits sont très courts, sont bien choisis. On voit à quel point il faisait bien jouer les chanteurs, même quand ils ne chantaient pas. Oui, l'étreinte entre Sigmund et Sieglind. Bon, il faut dire que Peter Hoffmann, et là, c'est Janine Altmeyer. Bon, ils sont formidables. Mais avoir des extraits très beaux, mais avoir des extraits du Ring sans Siegfried et sans Brunhild, c'est un peu gênant pour une expo. Voilà. Alors ça, vraiment, moi, la politique d'extrait, j'ai pas du tout compris. J'imagine qu'il y a des bonnes raisons, mais je ne l'ai pas comprise. Et en plus de la relation avec les chanteurs qui manque, je pense qu'il aurait pas été inutile, même de manière légère, de nous dire un peu ce que faisait Chéreau au théâtre et au cinéma dans ces années-là. Pas le détailler, puisqu'on est sur Chéreau à l'opéra.
Le contextualiser.
Mais une espèce de frise chronologique, un truc sobre, mais qui nous aurait remis un peu le Chéreau d'opéra, qui aime, qui n'aime pas, qui s'arrête longtemps, qui va reprendre, qui ne fait pas Tristan quand on le lui demande, mais qui le fera plus tard à la Scala. Enfin, tout ça dans un fil de l'ensemble de sa carrière. Je pense que ça ne serait pas inutile.
Lucille Comeau, dernier mot.
Juste sur la politique des extraits, bon, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je trouve justement intéressant qu'ils aient choisi des extraits où les chanteurs ne chantent pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, je ne suis pas sûre. Mais en effet, notamment ce passage d'Electra, qui est un passage dansé, en fait, qui est quand même incroyable, parce que là on voit le travail sur le corps qu'il faisait faire à des chanteurs, et ça c'est quand même vraiment très très impressionnant, et on en parlera aussi pour la Maison des Morts, mais il fait faire des choses à des chanteurs lyriques que je pense personne n'a vraiment réussi à faire. Je me demande même, moi je serais assez curieuse de potentiels conflits qu'il y a pu avoir, notamment au début où il n'était pas vraiment connu, je sais pas, dans les années 60-70, j'imagine des chanteurs lui refuser des choses, parce que c'est un investissement physique incroyable.
À la fois, les chanteurs adorent qu'on les fasse jouer.
Oui, mais là, il y a plus que du jeu. Il y a de la chorégraphie, il y a du placement extrêmement rigoureux sur scène. Enfin, c'est un niveau de précision très impressionnant.
Et d'investissement sportif. Sur cette question, peut-être.
Oui, au début, justement, pour le Ring, certains chanteurs, notamment René Collot, qui était le grand ténor wagnérien des années 70, a claqué la porte parce qu'il ne supportait pas du tout.
Tant pis pour lui.
Voilà. Mais d'autres se sont battus pour rester. Ouais. Et après, tous les chanteurs se sont battus pour travailler avec Chéreau aussi.
Exposition Patrice Chéreau, mettre en scène l'opéra, c'est jusqu'au 3 mars à la Bibliothèque Musée de l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. Donc c'est une exposition conçue avec la BNF et l'IMEC. Le catalogue de l'exposition, qui rassemble pas mal de contributions, en plus d'être un beau livre, publié chez Actes Sud Papier avec l'Opéra de Paris et la BNF. On va continuer à parler de Patrice Chéreau dans la dispute, puisque on va avoir un exemple concret de son travail avec l'Opéra de la Maison des Morts de Janáček. Nous parlerons aussi ensuite d'un CD Haydn Mozart gainé par Julien Chauvin et le concert de la loge.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le mardi soir à la musique avec une mise en scène de Patrice Chéreau de la Maison des Morts de Janáček, à découvrir alors selon deux modalités. En DVD, filmé le 20 juillet 2007 à Aix-en-Provence avec Pierre Boulez à la direction de l'orchestre. Ou en ce moment, à l'Opéra de Paris, Vincent Huguet et Peter McClintock réalisant la reprise de cette mise en scène avec Esa-Pekka Salonen dans la fosse. On va écouter un extrait de la production actuelle avec le grand, à tous les sens, Peter Mattei. Ravensilka, ustarimu, čelmece, vred mi moje penise, sohja u tebe pakođim, nek ti sebo okonovat, a kulku pravil, prace nevoju, ja na vojno pojmu, sed maša se vratim, stari je inako peko bi platil, si straceni človek. Stracen, ale u tebe še dobrado, nauči se šlome, kine mleku spirat. Voilà pour cet extrait là aussi, pardon, c'est pas ça la truelle et le massicot, mais bon, il
mais
faut faire des coupes.
Mais on n'est pas dans une exposition.
Non, non, on essaye de laisser les airs entiers. Alors, pour Yann Hachek et pour ceux de la Maison des Morts, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Pour autant, alors Emmanuel Giuliani, j'imagine que vous aviez vu la mise en scène de Patrice Chéreau.
Eh bien non. Pas du tout, et non, et non.
Ah non.
J'avais vu le DVD, mais c'est la première fois que je voyais en vrai, comme disent les enfants, voilà,
ouais.
cette mise en scène.
Donc, ah d'accord.
Voilà, donc c'était un regard... neuf, voilà.
Alors, ben,
mon
intéressant
côté vétéran
parce que...
fait que j'ai vu Loulou, les contes d'Hoffmann
voilà,
vous... Alors, en vrai.
Intéressant. Trois, quatre
voilà,
figures différentes autour de cette
voilà,
table, parce que je pense que Emmanuel Dupuis était avec ça en 2007.
Non, j'étais
même
à,
mieux,
j'étais à
Emmanuel.
Vienne. Oh pardon, à Vienne, c'est plus chic, parce que c'était effectivement une coproduction
voilà,
avec Vienne.
C'est juste avant,
mais alors, ouais. Trois, quatre figures donc. Le premier, Emmanuel Giuliani, vous qui avez vu beaucoup de mises en scène de Patrice Chéreau, qui n'avait pas vu celle-ci dirigée par Patrice Chéreau, voir cette reprise assurée par des gens qui ont beaucoup travaillé avec lui l'un comme l'autre. Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose d'approchant? Parce que c'est très compliqué les reprises de mise en scène après le décès des metteurs en scène.
Bien sûr. Il m'a semblé, alors après j'ai lu sous certaines plumes de confrères qui avaient vu justement les deux, qu'il y avait une étincelle, un feu sacré qu'ils ne sentaient plus. Après on sait bien que quand on est face à un spectacle, on est face à l'objectivité du spectacle et sa propre subjectivité.
Sûr.
Ou si on s'attend à ne pas retrouver le feu sacré, on
oui.
risque de ne pas le retrouver. Donc ça évidemment je ne peux pas en juger. Je ne peux pas non plus le comparer au DVD parce que vraiment on voit que ça avait été recréé et filmé spécifiquement. Pour être un produit audiovisuel,
ouais.
et c'est très bien, on aimerait que beaucoup d'opéras soient faits de cette façon-là.
Moi, je suis pas sûr, mais bon, bah, ça,
n'ayant
c'est
pas vu la
en
mise
parler.
En scène, en tous les cas, ça m'avait oui, permis d'apprécier certaines choses. Donc, j'ai pas du tout, je savais que je n'allais pas retrouver la même chose. J'ajoute un troisième point qui est purement de conjoncture. Il se trouvait, j'en étais très, très, très heureuse, que j'étais au premier rang et proche des APK Salonen, comme je suis proche de vous. Plaisir égal.
Voilà. C'est gentil, mais c'est un peu... Bon,
et donc,
j'accepte la flatterie, allez.
Voilà. Et donc, voir
ouais,
de si près et entendre de si près
aussi,
ce que Salonen fait avec l'Orchestre de l'Opéra dans une telle
beaucoup.
Partition, j'avais double,
bah, oui.
non pas double peine, mais double récompense et double plaisir en ayant à la fois ce qui est sur scène et voilà. Non, j'ai trouvé que c'était un très très grand spectacle qui se terminait en plus musicalement de manière absolument somptueuse. Ben, on vient d'en entendre un extrait parce que Peter Mattei, dont on dira jamais assez qu'il est un des plus extraordinaires chanteurs du circuit lyrique, avec cette voix prodigieuse.
Mais ça fait des années et des années que ça dure.
Ce foyer, cette incarnation.
À ce
niveau-là. Et il a sans doute, il a même de manière sûre, le rôle qui a l'extrait opératique, la ligne opératique la plus déployée, la plus mélodieuse, la plus. Donc vraiment, on peut se repaître de ce qu'il chante et quand. Et de l'orchestre qui l'accompagne, et quand c'est chanté et accompagné comme ça, c'est formidable. Non, c'est un spectacle très prenant, dont on sort assez sonné, ma foi, mais au bon sens du terme. Mmh. Voilà, il faut un peu de temps pour s'en remettre.
C'est 1h35, qui lâche rien.
Absolument, parce que l'opéra ne lâche rien,
ouais.
parce que le livret ne lâche rien,
ouais.
l'histoire ne lâche rien, la misère humaine dans toute son horreur et sa grandeur aussi, parce que rendre ses lunettes à quelqu'un qu'on a massacré au début de l'opéra, battu, humilié, annihilé, que l'un des détenus lui rende les lunettes qu'il cherchait à tâtons et sans lesquelles il ne peut rien faire. C'est aussi un moment d'humanité absolument extraordinaire, dont découleront plein de choses ensuite. Donc il y a à la fois des moments d'une beauté, quand même d'une confiance en l'homme qui existe, et puis des moments de désespoir farouche. Et ça, la mise en scène sur les protagonistes, mais c'est un opéra choral, et sur absolument toute personne qui foule le plateau, ouais, que ce soit au fond, là-bas, là-bas, loin, à gauche ou dans la diagonale, comme vous voulez, Chéreau, au premier rang tout près, voilà, on a absolument tout et c'est somptueux.
Lucile Comeau, alors, autre cas de figure, vous avez un peu regardé le DVD, vous n'avez,
oui,
jamais vu de mise en
d'abord,
scène de Patrice Chéreau, ouais, vivant.
Enfin, d'opéra, oui.
D'opéra de, oui, de Patrice Chéreau. Alors,
bah déjà, il faut dire un petit peu ce que c'est, peut-être que ce petite forme, donc, qui est une, enfin, le livret est une adaptation par Yana Tchèque lui-même d'un texte de Dostoïevski. Ça se passe donc en prison, dans une prison qui est modulable, qui a été pensée encore une fois par Richard Peduzzi, donc sur scène, et c'est surtout ça qui fait un effet quand même impressionnant, quoi, c'est le décor. Et on est face à deux grands murs qui ont des petites ouvertures et qui, du coup, bougent un petit peu au fur et à mesure du spectacle. Deux grands murs en béton gris mat qui, donc, s'ouvrent plus ou moins. Il y a un passage avec des gradins. C'est une forme très particulière. Chéreau parlait de collage et, en effet, des passages. Peter Mattei débarque littéralement et il est là pendant 10 minutes, puis il repart, on ne le voit plus. Donc, c'est quand même très particulier comme forme. Alors moi j'ai été très impressionnée, très prise par aussi par ce texte qui est quand même quelque chose. Alors après bon, c'est pour vous titiller aussi un petit peu, mais de mon point de vue, il y a quelque chose qui est déjà, et je trouve que dans l'exposition on le sent aussi, d'un peu patrimonial dans ce que fait Chéreau aujourd'hui à l'opéra. Ça regarde quand même beaucoup vers le XXe siècle. D'ailleurs, il le disait lui-même.
Déjà rire Emmanuel Dupuis.
Oui, non, mais je
c'est bien. Bah, allez-y, voilà. Lucile.
Non, mais si, parce que bon, ce que ça représente concrètement, ce que ça évoque immédiatement comme image, ce sont des images de la Seconde Guerre mondiale, des images du Goulag, des images de la Russie, voilà, de l'URSS. Donc il y a quelque chose qui évoque pour moi très profondément la violence et les orages du XXe siècle. Et de manière générale, j'ai l'impression que c'est ce qui préoccupait beaucoup Chéreau. Et ça marque beaucoup ses mises en scène d'opéra. De la même manière que tout ce travail sur le corps, vous le disiez Emmanuel Giuliani, c'est presque un ballet en fait, de la Maison des Morts. Il y a une chorégraphie incroyable et ça quand on compare le DVD et le spectacle, c'est très frappant.
Crédité, voilà, de co-mise
en scène
aussi, pour cette Maison des Morts.
Et ça se sent, et pour moi c'est aussi quelque chose de très marqué dans le XXe siècle que de travailler l'opéra aussi comme un ballet et les corps comme ça. Donc je trouve ça magnifique, c'est évidemment, je suis ravie d'avoir vu ce spectacle. Seulement, j'attends quelqu'un d'autres maintenant qui pourraient proposer et qui auraient la stature de Chéreau et qui pourraient proposer ce que serait l'opéra du 21e siècle, enfin la mise en scène de l'opéra à la 21e siècle, je ne sais pas
bon,
qui ce sera.
On est qu'en 17, alors laissez-lui
oui,
le temps.
Oui, mais pour moi, non, voilà, mais... l'exposition referme quelque chose d'une certaine manière pour moi sur Chéreau. Je trouve que ça c'est la fin d'une grammaire à l'opéra et c'est très beau, mais c'est daté.
Juste avant de donner la parole à Emmanuel Dupuis, rappelez que Patrice Chéreau est en 1944, ce qui n'est pas tout à fait anodin par rapport à ce que vous venez de dire. Emmanuel Dupuis.
Oui, que ce soit un homme du XXe siècle, je suis tout à fait d'accord avec vous, et qu'on attende le nouveau Chéreau aussi. Et effectivement, je pense qu'il va falloir arrêter de reprendre les mises en scène de Patrice Chéreau, parce que lui-même le disait, une mise en scène, c'est un objet périssable, et il faut, au bout de quelques années, il faut refaire les mises en scène. Il était tout à fait...
Bon, celle-ci date d'il y a 10 ans, à peine.
Celle-ci date d'il y a 10 ans.
On peut encore voir Electra quelques
voilà,
années.
Et elle est remontée par des gens... bon, il faut préciser que tous les chanteurs ont travaillé avec Chéreau, oui, soit au moment de la création du spectacle, soit au cours des différentes reprises à New York.
Autour du monde.
À New York notamment, et à Berlin, et etc. Et que les artisans de cette reprise, Peter McClintock, Vincent Huguet, Thierry Tionhang, ont tous travaillé également avec Chéreau. Donc voilà, on est encore à la source de cet objet théâtral, mais je pense effectivement que c'est... Oui, d'une certaine manière, c'est un objet patrimonial, vous avez raison.
Alors vous l'aviez vu à Vienne.
Alors donc je l'ai vu à Vienne. Donc les toutes premières représentations, oui, à Vienne au Théâtre an der Wien, qui est à peu près, si vous voulez, l'équivalent de l'Opéra Comique, c'est-à-dire il doit y avoir 300 places de plus. Donc c'est une toute petite salle de 1300 places, je crois. Je me souviens très très bien parce que c'est un moment qu'on n'oublie pas quand on vit un choc pareil. J'étais assis dans les premiers rangs et je m'en étais pris pour parler clairement, mais plein la figure, quoi. Je veux dire, c'était un choc visuel, un choc musical, un choc esthétique, un choc physique aussi, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Lucille et Emmanuel, il y a vraiment une dimension physique dans ce spectacle-là. Alors, est-ce que j'ai revécu ce choc à Bastille? En partie, oui, parce que le spectacle est magistral, mais malgré tout, il y a forcément, quand on passe d'une salle de 1300 places à une salle de 2700, il y a forcément une déperdition. Mmh. Une déperdition qui joue même sur le décor de Peduzzi, qui est certes splendide, avec ces murs en béton qui sont très très hauts et qui créent une sorte de verticalité, qui crée un sentiment d'élévation, comme si les personnages étaient attirés par la lumière qui plonge sur ces décors. Et je trouvais que ce décor nageait un petit peu sur le plateau de Bastille, qu'il avait moins d'impact, même s'il reste admirable. Et puis certains effets visuels aussi sont moins puissants, et notamment le fameux effet qui a fait tout couler tant d'encre à la fin du premier acte, sur le dernier accord. Il y a un amas de vieux papiers, de vieux livres, de vieux cartons qui s'abat des cintres. Alors, je me souviens très bien qu'à Vienne, quand j'ai vu ça, j'ai eu tout simplement l'impression que le ciel me tombait sur la tête, quoi. C'était extrêmement impressionnant. Là, non, on a des vieux papiers qui tombent des cintres.
Il y a une déperdition dans une salle aussi immense que Bastille.
Il y a une déperdition. Mais ceci étant, c'est vrai que ça reste un spectacle absolument magistral. Et oui, effectivement, une dimension chorégraphique, ça c'est évident. On dit souvent que La Maison des Morts c'est un opéra où il ne se passe rien, mais en réalité, Chéreau lui arrive à en faire un opéra hyperactif. Il se passe toujours quelque chose. Et il fait appel notamment à une troupe d'une quinzaine de comédiens qui sont pas là simplement pour faire de la figuration, mais qui sont là pour animer cette prison, la faire vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à la fin de la représentation, je me dis, mais en fait, c'était qui les comédiens, c'était qui les chanteurs, c'était qui les choristes? En fait, tous sont investis de la même manière. Et voilà, quoi. Donc, il faudrait pouvoir détailler minute par minute, parce que ça passe par un geste par-ci, un regard par-là, qui nous disent des choses immenses sur la psychologie des personnages, sur la relation. Bon, évidemment, dans ce huis clos masculin, Chéreau, le réalisateur de L'Homme blessé, ne pouvait pas ignorer une dimension homoérotique. Elle est là, mais c'est fait toujours, c'est jamais appuyé, notamment dans la relation entre le jeune Aléa et Goryanchikov. Personnage plus âgé, oui, c'est plus une relation de tendresse qui est très très belle. Donc voilà, ça reste un grand choc quand même visuel. Mais c'est vrai, vous avez raison, Lucille. C'est vrai que maintenant, il va falloir pouvoir passer à autre chose.
Mais pour autant, il y a quand même des traces, et les traces importantes sont les DVD. Vous avez en mémoire le DVD. Vous l'avez regardé un peu récemment, Emmanuel Dupuy.
Non, je me souviens très bien. Effectivement, moi, j'ai bien aimé
une recréation, on va dire.
Voilà, c'est-à-dire que c'est filmé. Bon, c'est sans.
Pour partie sur le plateau.
Voilà, c'est filmé sans public dans la salle. Donc la caméra est souvent sur scène et on a l'impression souvent d'être à l'intérieur du spectacle. Et ça, ça
pour
apporte.
Pour cet opéra-là, on va dire que c'est plutôt pertinent.
Je trouvais que ça marchait pas, mal du tout, que ça. Bon, et en plus, il y a la direction de Boulez qui est quand même aussi un atout. Quoique celle de Salonen, même si c'est différent, c'est quand même aussi du très très grand art. C'est moins, peut-être moins acéré chez Salonen. C'est quelque chose de plus en rondeur dans sa manière d'aborder cet opéra, quelque chose de plus lyrique. Mais ce qui est absolument miraculeux, c'est que l'orchestre sonne à Bastille comme jamais il ne sonne. Il y a une plénitude qui est extraordinaire. Je crois que Salonen est le seul, c'est un sorcier pour ça, c'est le seul à réussir à faire sonner l'orchestre de l'Opéra de Paris à Bastille de cette manière. C'était déjà le cas dans Tristan et Isolde, et là à nouveau c'est vraiment du très grand art.
Sur Salonen, Lucille Comeau?
Oui, dès l'ouverture qui est magnifique, l'ouverture de la Maison des Morts, c'est très très impressionnant. Moi non plus, j'ai jamais entendu l'Opéra de Paris comme ça. C'est pour moi, pour le coup, c'est peut-être ça le plus grand choc, au-delà de la mise en scène et du plateau vocal. Bon, Peter Mattei est incroyable, les autres parfois sont un petit peu en dessous. Ça, bon, c'est toujours ce problème de l'Opéra Bastille, c'est très difficile, on les entend pas toujours très très bien, notamment au début, je trouvais que c'était un petit peu en dessous. Mais il faut dire que l'orchestre a une telle ampleur que vraiment c'est très très impressionnant.
Emmanuel Giuliani, dernier mot peut-être sur cette production.
Sur cette production, Ce qui est très, très caractéristique aussi, c'est que il n'y a pratiquement aucun personnage féminin. Il y a une petite intervention vocale féminine et quelques comédiennes figurantes. Mais on distingue parfaitement les différents. Ça, c'est un des génies aussi des grands metteurs en scène, des grands costumiers, des grands chorégraphes. Voilà. Chacun a sa gestuelle, sa façon d'être, son rapport à l'espace, à être ancré sur terre ou au contraire à chercher, comme vous le disiez, Emmanuel, à voir quand même un morceau de ciel dans cet univers carcéral, et on repère tout de suite qui est qui, même ceux qui ne chantent pas et qui vont venir, Peter Mattei, oui, au début on a l'impression que c'est l'homme de ménage, et puis après, voilà, ce qu'il est aussi, et ils sont à la fois sublimes et triviaux, enfin, on a tout ça en même temps, on n'est jamais perdu, et dans ce foisonnement de personnages et ce foisonnement musical aussi, parce que Dieu sait que la partition d'Yana Tchèque est complexe et à la fois extrêmement lyrique, de chauffer à blanc par moment, d'une douceur incroyable à d'autres, mais on se dit, oh là là, c'est doux, parce que ça me réserve un coup de Trafalgar et il ne manque pas d'arriver. Et tout ça est orchestré avec une telle maîtrise qu'on est quand même assez bluffé.
De la Maison des Morts, alors, deux façons de voir ou revoir cet opéra de Léon Sienachek. À l'Opéra de Paris, dirigé par Esa-Pekka Salonen, mise en scène Patrice Chéreau, réalisé par Peter McClintock et Vincent Huguet, collaboration artistique Thierry Tsunyang. On a cité les décors de Richard Peduzzi, parlant des costumes de Caroline de Vives, des lumières de Bertrand Coudert, et c'est José-Louis Basso qui est le chef de chœur pour cette reprise de cette mise en scène. Et puis donc, ça c'est jusqu'au 2 décembre à Bastille, ce sera diffusé sur France Musique le 17 décembre. Et puis donc également en DVD, avec forcément une image très émouvante, les saluts pour le coup, là il y avait du public, de Pierre Boulez et Patrice Chéreau, main dans la main et très beau, très heureux. Donc ce DVD, lui, il est chez Deutsche Grammophon.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième sujet de cette dispute musique, après cette double page Patrice Chéreau, là on va vers un disque du Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin, qui tient également le violon. On trouve sur ce disque un concerto pour piano de Mozart, avec Justine Taylor au piano forte, une symphonie de Guénin, mais c'est une symphonie de Haydn qui est mise en avant, la numéro 83 en sol majeur, surnommée La Poule. Il faut dire que le Concert de la Loge, anciennement connu sous le nom de Concert de la Loge Olympique, on en avait parlé dans quelques revues de presse, Antoine Guillaume est attaqué par le Comité international olympique. Il a fallu qu'il change de nom. Vraiment, il ferait mieux de s'occuper d'autre chose. Donc, le Concert de la Loge, puisque c'est leur nouveau nom, a pour but de graver l'intégrale des symphonies parisiennes de Haydn. Alors, La Poule, pourquoi La Poule? On va écouter le début du premier mouvement.
Thank you.
Voilà pour cet extrait, là aussi on doit chanter, parce que ce mouvement fait 7 minutes et quelques, et qu'il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette émission. Lucille Comeau, à vous la parole pour parler de ce disque.
Oui, alors finalement, en écoutant, je me dis que c'est assez injuste ce surnom de poule, parce qu'il y a quand même quelque chose de très élégant dans cette symphonie de Haydn. En fait, le surnom est lié à ce qu'on entendait, les espèces de petites saillies au bois syncopées qui sont reprises après à la flûte, qui donc
vont les faire
un peu d'un caquettement. Mais oui. Bon, là, en l'occurrence, je crois que c'est surtout le hautbois qui fait poule. Je ne veux pas défendre ma paroisse, mais bon. Donc, moi, j'aime beaucoup cette symphonie-là. Je la trouve particulièrement bien, là, sous la baguette de Julien Chauvin. Très élégante, avec beaucoup d'énergie, notamment dans ce premier mouvement. Il y a quelque chose de très narratif. Ça ressemble un peu à une ouverture d'opéra, moi, je trouve, ce premier mouvement-là. Et je trouve le programme bien mené, et notamment, je vais peut-être parler plus du concerto de Mozart, finalement, parce que... il y a Justin Taylor qui est au pianoforte, et je trouve qu'il est vraiment très 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 bon au pianoforte. On le connaissait surtout au clavecin, donc là on l'entend dans cet instrument qui est quand même difficile.
Vous voulez pas rester un peu sur Haydn quand même, mais sur les symphonies parisiennes, pour faire un premier tour de table avant de venir sur la suite du programme?
Allons-y.
Pardon Lucille, mais pour la cohérence du débat, pour qu'on ne parte pas dans tous les sens, Haydn? Les symphonies parisiennes.
Haydn et Julien Chauvin, c'est vrai qu'ils vont très bien ensemble. On sait qu'il est très attaché à graver ce répertoire, puisque le propos de Julien Chauvin est un propos et musical, mais aussi historique, musicologique, et l'histoire de la vie musicale parisienne au moment de ce fameux concert de la Loge Olympique dont il restitue... Il fait beaucoup de recherches et il restitue donc la programmation et les concerts parisiens de l'époque. Et c'est vrai que la finesse, l'élégance que Lucille a souligné, cette énergie qui n'est jamais brutale, qui est toujours mue par une espèce de petit moteur qui est à la fois ironique, plaisant, qui convient très bien au style de Haydn, ça marche vraiment très très bien. Ça marche bien au concert aussi. J'avais été au concert au mois d'octobre, au début octobre, à l'Auditorium du Louvre. Ce n'était pas le même programme, c'était la symphonie l'ours, on restait dans le bestiaire, mais on changeait un petit peu de catégorie, qui avait été aussi, qui avait été sans doute le moment du programme le plus vivant, le plus affûté, le plus réussi. Donc il y a une belle osmose entre cette musique, ce chef et cet ensemble qui est une émanation et maintenant qui est vraiment, qui a pris son envol, voilà, exactement, et ça, légitimité par rapport, on sait, où Julien Chauvin, le début du compagnonnage au Cercle de l'Harmonie avec Jérémy Rohrer, etc. Donc maintenant, c'est vraiment deux entités séparées, même si on a pu retrouver certains musiciens de premier ensemble dans le second. Et vraiment, et puis il y a une très grande cohérence dans le parcours, encore une fois, dans la recherche de répertoire. Donc c'est vraiment des artistes à suivre attentivement.
Haydn, La Loge, Chauvin, Dupuis...
Oui,
Emmanuel.
La porte. il y a une véritable cohérence, parce qu'il faut rappeler que ces symphonies parisiennes ont été créées par le concert de la Loge Olympique, parce que ça s'appelait vraiment comme concert de la Loge Olympique à la fin du XVIIIe siècle à Paris. Donc il y a une vraie cohérence à ce que Julien Chauvin et le concert de la Loge aujourd'hui, hélas.
Ils avaient choisi ce nom-là, oui.
Hélas qu'on les a obligés à choisir ce nom, oui. Il y a une vraie cohérence au fait qu'ils s'approprient à leur tour ces symphonies et qu'ils les enregistrent l'une après l'autre, puisque La Reine a déjà été publiée, paru il y a quelques mois, et maintenant c'est au tour de La Poule. Et c'est une lecture que je trouve effectivement assez réjouissante, assez électrique. Même, je trouve que les cordes sont magnifiques, c'est classique mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a, c'est expressif mais sans excès. C'est, oui, effectivement, comme Lucille, comme vous le disiez, c'est théâtral aussi. On entend beaucoup de détails, de contre-champs qui sont mis en lumière, et donc voilà. Donc c'est vraiment une très bonne version de cette symphonie parmi les versions sur instruments anciens. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a celle de Franz Bruggen notamment, moi, que j'aime beaucoup, mais celle-ci se défend très très bien.
Allez, on revient à Mozart, Lucille Comeau.
Oui, puis là, au-delà des dates, puisque je crois qu'il n'y a qu'une année de différence entre la composition du coup de La Poule et du concerto de Mozart, il y a aussi, je parlais du pianoforte, c'était précisément à cette date, le livret le rappelle bien, que le pianoforte a pris est devenu un instrument à la mode dans les salons
parisiens. Son essor, là, c'était son essor, là, c'est son envol et là, c'est son essor.
J'ai failli dire envol et puis après,
l'envol du pianoforte.
Voilà, je me suis dit que c'était
ça
pas forcément
mal quand
la
ça
bonne
retombe.
Image. Voilà.
Ouais.
Donc là, Justin Taylor, qui est tout à fait français, il ne s'appelle pas Justin Taylor. comme je croyais au départ, et qui est donc qu'on connaît plutôt au clavecin et là qu'on entend au pianoforte. Je trouve qu'il manie vraiment très très bien cet instrument-là, qui est difficile. On entend beaucoup le toucher, enfin on entend beaucoup le marteau dans bien le pianoforte. Là, c'est très velouté, c'est très rond. Il arrive à quand même un ambitus de nuances que je trouve assez impressionnant. Bon, je trouve que dans le premier mouvement, il est un petit peu en retrait. On ne l'entend pas très bien au départ. Bon, là, peut-être quelque chose au niveau de l'enregistrement. Je ne sais pas, peut-être qu'Emmanuel
saura en dire plus. Au concert, on entend très, très peu.
Parce que là, c'est vrai que dans les cadences, on l'entend particulièrement bien. Et on se dit, bon, c'est dommage de ne pas l'entendre plus dans les autres parties.
Emmanuel Dupuis, des révélations à faire?
Non, moi, ce problème de déséquilibre m'a énormément gêné, et notamment dans le premier mouvement. Il y a un vrai problème de balance, quoi. Tout simplement, il y a des passages où on n'entend pas, dans les tutti, on n'entend pas le pianoforte. C'est un vrai problème. Il est noyé. Alors, je sais bien qu'un pianoforte, ça ne sonne pas comme un Steinway, hein, mais malgré tout, à l'enregistrement, on aurait pu corriger ce déséquilibre. Alors, c'est un peu moins vrai dans le mouvement lent, où il y a effectivement des moments très délicats, mais malgré tout, moi, je trouve que c'est un très bon musicien, Justin Taylor, effectivement, mais ça reste toujours un petit peu trop joli. Je trouve que ça manque d'ampleur.
Pas d'accord, Lucille Comeau.
Ça manque d'ampleur, de souffle. Enfin, pour tout dire, moi, j'ai trouvé ça un petit peu étriqué. Pour moi, c'est un peu ce concerto est un petit peu la grande faiblesse de ce disque. Et alors qu'on peut tout à fait les interpréter sur pianoforte, d'autres l'ont fait, André Steyer notamment, qui l'a fait enregistrer de façon absolument magistrale. C'est pas le problème. Mais là, dans cet enregistrement-là, je suis pas vraiment convaincu.
Je trouve que c'est cohérent avec la première partie du programme, aussi dans l'esprit, c'est fin, c'est léger. Je vois ce que vous voulez dire. Pour moi, c'est plutôt de la légèreté plutôt que quelque chose d'étriqué. C'est plus léger qu'étriqué. Mais c'est vrai qu'on l'entend peu. Moi, je me suis posé la question de l'enregistrement. Mais bon, si vous me dites que c'est pareil en concert.
Oui, mais en concert, en enregistrement, on peut régler sa balance autrement. Justement, on peut tricher. Et ce qui n'est pas le cas sur ce disque. Emmanuel Giuliani?
Oui, alors, j'ai commencé à l'inverse. Moi, j'ai écouté le concerto après l'avoir entendu en concert. J'avais trouvé que dans le concert, c'était vraiment le moment, alors que je me faisais une fête d'entendre ce 17e de Mozart. Et un moment où, à la fois au point de vue de la sonorité et aussi au point de vue de l'intérêt, vous parliez très justement pour la symphonie de Haydn tout à l'heure, Lucie, du côté narratif. Là, je trouvais que c'était vraiment une somme de détails jolis, élégants, mais qui n'avaient pas de fil conducteur, qui n'avaient pas d'émotion, qui avaient une juxtaposition d'effets. Et après le Haydn, qui est vraiment un vin capiteux, là, j'avais un peu l'impression de boire de l'eau tiède. Et j'avoue que dans l'enregistrement, ça n'est pas corrigé. Et je pense que tout bonnement. Alors, c'est des catégories un peu idiotes, mais quand on écoute, on se dit ce garçon est certainement un excellent musicien, mais pour le moment, c'est pas un mozartien. Peut-être qu'il le deviendra, mais là, il y a une dimension qui manque complètement.
Oui, alors, une minute à se partager en trois. Vous faites vite les comptes, parce que c'est Marie-Alexandre. Hein. Marie-Alexandre Guénin, qui est quand même la troisième œuvre au programme. On en dit quelque chose, rien, Lucille Comeau.
Alors, vraiment, pour le coup, c'est la curiosité du disque, parce que pas enregistré, à part un petit peu de musique de chambre, à ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas trouvé passionnante cette symphonie, qui est assez courte. Bien jouée, mais pas... Voilà,
curiosité historiographique. Emmanuel Giuliani?
Dispensable, sans doute, à la fois le tribut nécessaire et qui fait partie de la ligne de conduite et de révélation justement du répertoire du concert de la loge. Donc c'est tout à fait bienvenu que ce soit entre les deux géants que sont Haydn et encore plus Mozart, bien sûr. Mais c'est une curiosité et à la fois une justification historique. Donc moi, je suis pas contre, d'autant plus qu'en effet c'est court et pas désagréable du tout.
Emmanuel Dupuis.
Oui, c'est une totale découverte, une découverte plutôt heureuse, effectivement, une œuvre assez courte qui dure à peine plus de 12 minutes, donc le discours est assez concentré, assez éclatant aussi dans le dernier mouvement. Alors ça n'a pas les audaces d'un Gossec, par exemple, pour s'en tenir aux compositeurs de la même époque, mais il y a quand même un métier extrêmement efficace. Et bon, c'est pas le symphoniste majeur qu'on veut nous vendre, mais c'est quand même une découverte assez plaisante, effectivement.
Découverte pour Guénin, et puis donc cette symphonie 83 de Haydn et la 17 pour piano de Mozart par Julien Chauvin et le concert de la loge avec Justin Taylor au pianoforte pour Mozart. C'est un CD sorti chez Aparté. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, et c'est Grégoire Difior, bien sûr, qui nous rafraîchit la mémoire. Question puis réponse.
Quel est le nom de la sculpture de bronze de Botero dérobée au début du mois dans une galerie d'art parisienne? Et la réponse était Maternity.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Haroun Farrokhi, Empathie, à découvrir à la Friche de la Belle de Mai à Marseille jusqu'au 18 mars. Quelle est la question?
À quel motif cinématographique le réalisateur s'est particulièrement intéressé dans un de ses documentaires?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast de la dispute. Demain, 19h, dispute art plastique avec Sandra Adancourale, Yasmine Niossi et Florian Guettet. À notre affiche Paysage français, une aventure photographique, c'est à la BNF. Nalini Malani, La rébellion des morts, rétrospective 69-2018, au centre Pompidou à Paris, et Woman House, la maison selon elle, exposition à la Monnaie de Paris.